font toujours ce qui est interdit.
C'est ça.
Merci.
Je vous en prie.
Laisse-toi en plus.
Vous êtes bien à l'écoute de Fracture, l'émission d'actualité politique et sociale de Pulsar. Nous sommes sur la thématique des gilets jaunes et la parole va revenir à Françoise et JP pour la suite du développement.
Bah, on approche aussi un peu de la fin et on ne peut pas terminer sans aborder quand même le problème des suites de ce mouvement et des leçons qu'on peut en tirer dans une perspective qui est la nôtre, c'est-à-dire d'un vrai changement social.
Oui. Ce mouvement, bah, il dure, il reste populaire malgré tout ce que le gouvernement lui fait subir. Et on peut dire que c'est un mouvement énorme parce qu'aucun parti ou syndicat n'est aujourd'hui capable de mettre dans la rue autant de gens pendant 7 mois. En dépit de cette énorme répression, de cette énorme propagande médiatique à leur encontre. Et puis, ce n'est pas fini, forcément. Il est normal que des urgentistes ou du personnel des EHPAD se retrouvent dans le mouvement et puis qu'ils poursuivent, même de façon autonome maintenant, pour les urgentistes, la même dynamique de résistance face au pouvoir. Parce que les uns comme les autres, ils subissent la même logique économique du profit. Alors, à l'approche des européennes, le gouvernement il a cherché à réveiller le soupçon des accointances entre les gilets jaunes et l'extrême droite.
Oui, il faut préciser que ça s'est fait sur la base d'un sondage IFOP qui est sorti 3 jours juste avant les élections sur les intentions de vote des gilets jaunes.
Ouais, mais en fait, le mouvement des gilets jaunes il n'a pas bouleversé du tout le résultat des européennes. Et si on veut chercher les gilets jaunes dans ce scrutin, c'est sans doute beaucoup dans les abstentionnistes qu'on les trouvera. Jean-Pierre l'a dit au début de l'émission, Libé a titré, après les élections, la participation du siècle, parce qu'elle a été de 50,12%. Et toute la classe politique s'est extasiée devant cette preuve d'un intérêt renouvelé pour les outils démocratiques que serait le système de vote ou le Parlement européen. Mais le nombre des abstentions reste effectivement très élevé. Le Rassemblement national ne peut en tout cas pas, plus qu'un autre parti, se prétendre représentatif des Gilets jaunes, parce que ce mouvement il est resté irrécupérable du fait de sa diversité, que ce soit dans son implantation, dans sa composition, dans sa structuration, dans son état d'esprit. Envers et contre tout, il a vraiment maintenu son refus d'une organisation hiérarchisée de tout leader. Il a maintenu sa volonté d'unité, son caractère imprévisible, sa diversité tactique et sa force de résistance. Alors maintenant, cette guerre de classe qui se joue actuellement, eh ben, elle devrait s'accentuer parce que tous les ingrédients sont réunis pour se faire. D'une part, du côté des Gilets jaunes, ils ont rejeté des procédures qui auraient pu favoriser la satisfaction de leurs revendications, à savoir ce qui permet d'ordinaire d'entamer une négociation, l'acceptation de leaders, l'ouverture de pourparlers avec le gouvernement. Ils ont au contraire dénoncé et harcelé tous les leaders gilets jaunes qui s'autoproclamaient et qui se rapprochaient du pouvoir ou qui voulaient constituer des listes pour les élections européennes. Et du côté du patronat, eh ben, on constate qu'ils semblent plus du tout dans la recherche du fameux consensus social que les médias et la classe politique nous avaient abondamment servi dans les années 90, après le triomphe de la démocratie libérale sur l'Empire soviétique. Le patronat, il a visiblement déclaré une guerre ouverte aux classes dangereuses. Et Macron a amplifié la politique sécuritaire qu'avaient menée les précédents gouvernements contre ces classes. Il y a donc, sur ces bases, la dégradation des conditions de travail et d'existence pour les classes populaires devrait se poursuivre. Et de la même façon, le découpage de la France en 2 zones territoriales qui reflètent les choix économiques faits par le capitalisme. Ça devrait s'accentuer, donc, ce découpage, à partir des appartenances de classe. Avec d'un côté les métropoles et leurs proches banlieues, et de l'autre côté les zones rurales et les villes petites et moyennes. Les métropoles, elles profitent de la mondialisation, elles concentrent les activités tertiaires, la production des richesses et aussi les élites, d'où les phénomènes de gentrification et la hausse des prix de l'immobilier qu'on constate dans les grandes villes. Et ces grandes villes, elles ont des proches banlieues, dites de l'immigration, qui sont leur vivier de travailleurs précaires. Et du côté des zones rurales et des villes petites et moyennes, eh bien, il y a une exclusion de la production de richesses ou de leur redistribution. Et la mort de ces zones-là, elle est déjà programmée. Ce sera des terrains pour l'industrie touristique ou pour implanter des champs d'éoliennes, quoi. Voilà. Mais de plus, dans le tableau qu'on peut imaginer, il y a fort à parier que les résistances sociales seront désormais de moins en moins organisées, régulées, cadré selon un calendrier fixé par les partis et syndicats de gauche, comme auparavant. Parce que les partis de gauche, ils vont sans doute continuer d'être très déconsidérés par les classes populaires, du fait qu'ils ne peuvent plus prétendre servir leurs intérêts. On voit l'état du PS et du PC
aux dernières
européennes. De la même façon, les centrales syndicales, elles ont du plomb dans l'aile. D'une part, le taux de syndicalisation, qui a toujours été très faible, ne cesse pas de baisser. Mais surtout, les centrales syndicales, elles perdent bien des postes de délégués, des heures de délégation dans les entreprises, avec l'application des ordonnances Macron de décembre 2017, qui oblige toutes les directions de boîtes à fusionner, avant le 1er janvier de l'an prochain, leurs comités d'entreprise, leurs délégués du personnel et leurs CHSCT dans un comité social et économique, le CSE.
Oui, il faut préciser que cette fusion, elle va avoir comme effet que les comités, le comité social et économique, il aura beaucoup moins de temps pour traiter toutes les questions de conditions de travail et d'hygiène et de sécurité qu'était la spécialisée avant des CHSCT, des comités hygiène et sécurité.
Sachant qu'une réforme justement du droit de la sécurité au travail est prévue pour la rentrée, je crois, ou l'année prochaine. Donc il y a aussi des attaques encore plus fortes à attendre de ce côté-là.
Bon, on va terminer quand même par une note optimiste sur ce qu'on espère. Est-ce que d'autres explosions sociales d'importance sont prévisibles ?
Ouais, sans doute, je pense.
Sans doute, hein.
Parce que l'État n'a reculé en rien dans ses intentions de continuer à brader le secteur public au profit du secteur privé et aussi de dégrader les conditions de travail et d'existence des classes populaires. La locution de Macron après son grand débat l'a par exemple montré. Hein. Il compte sur deux moyens pour poursuivre sur sa lancée, la répression et les élections. Alors la répression, il s'agit de dissuader de participer aux mobilisations sociales, quelles qu'elles soient.
Alors, il y a des observateurs étrangers qui se sont penchés sur la répression en France, des observateurs étrangers, journalistes et puis aussi liés à l'ONU, qui ont placé la France entre le Venezuela et Haïti en matière de violence policière.
Oui, et bon, ce qu'on peut dire, c'est que le pouvoir actuel semble vraiment ne plus vouloir autoriser que les manifestations qui portent sur des thèmes qu'il défend lui-même officiellement, genre la cause des femmes, la cause des homosexuels ou encore l'écologie. Mais alors les manifestations sur des bases sociales, il n'en veut pas. Et d'autre part, les élections. La République En Marche, elle a été devancée par le Rassemblement National aux Européennes. Jean-Pierre l'a développé un peu tout à l'heure. Mais pour ce qui est de la présidentielle de 2022, Macron compte que tant qu'il se trouvera en concurrence avec une Marine Le Pen, il y aura des gens pour le préférer à elle au nom de l'antifascisme ou de la démocratie. Et il n'a pas tort, ça fonctionnera en partie comme ça. Et d'autre part, le succès qui a été souligné là, de la liste écolo aux européennes, il n'est pas si exceptionnel, puisque en fait, ils ont fait un peu mieux que... Ils ont fait moins aux dernières élections qu'aux élections de 2009. Mais ce succès, de toute façon, il ne prouve pas leur crédibilité dans une présidentielle, puisqu'on sait bien que les écolos, ils se déchirent toujours et qu'ils n'ont pas de plus de candidats charismatiques.
Oui, puis cette question-là sur les élections européennes, en fait, il se passe un petit peu la même chose qu'après les élections présidentielles, c'est-à-dire que l'éclatement complet de, là en revanche, de l'aile droite politique traditionnelle, l'aile républicain, qui est en train d'être siphonné, vampirisé par Macron, et ce qui va en fait accentuer tout ce qu'il nous dit depuis le début de sa campagne, quoi. En gros, c'est ou le chaos libéral que lui représente, ou le chaos d'extrême droite que Marine Le Pen et le Rassemblement national le représentent. Donc il y a vraiment une restructuration complète de la vie politique française et que effectivement ça risque d'aller dans son sens sur le moi ou l'extrême droite sur l'avenir. Enfin, quand je dis moi, bien sûr, je parle de Macron, je parle pas de moi.
Donc en conclusion sur ce thème du mouvement des Gilets jaunes, on peut dire que si l'énorme répression policière et judiciaire a sans nul doute joué sur la décrue des manifestations Gilets jaunes, la colère sociale, elle est loin d'être éteinte et que le pouvoir aura du mal à museler de toute façon toute opposition à l'ordre établi. Mais bon, pour moi, cette opposition, elle ne peut convaincre de faire table rase et gagnée que si elle est vraiment porteuse d'une utopie positive, d'un projet alternatif qui donne envie de changer radicalement la société.